Bonsoir et merci de vous joindre à nous dans ce rendez-vous hebdomadaire de la presse de ce vendredi 6 juin. Jean-Pierre Bemba reste en détention préventive. La chambre de mise en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles a réitéré la décision prise la semaine dernière par la chambre du Conseil. Arrivée des matériels chinois, 12 000 tonnes de matériel, engins confondus, sont arrivés hier à Kinshasa. Attaque avec mort d'homme d'un camp des déplacés mercredi dernier à Rutshuru, au moment où se clôturait à Gisenyi au Rwanda la réunion d'évaluation du communiqué de Nairobi. Ce sont là les sujets que nous allons aborder ce soir dans cette tribune de la presse avec comme invité Félix Kabuizi, directeur de publication du quotidien La Référence Plus qui paraît à Kinshasa, Michel Toumba, directeur provincial de l'agence congolaise de presse au Bandundu, Nicodème Bakoleta, rédacteur en chef de la radio-télévision Grabel de Béni dans le Nord Kivu, et Albert Omba, journaliste de Numérica et Tropicana FM. Bienvenue à toutes et à tous. La justice belge a décidé le jeudi de maintenir en détention préventive Jean-Pierre Bemba. La chambre de mise en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles a réitéré d'abord la décision prise la semaine dernière par la chambre du Conseil qui avait refusé d'accorder au président du MLC une liberté provisoire. La chambre de mise en accusation estime qu'il était précoce de traiter cet autre aspect de liberté provisoire sur deux demandes formulées par ses avocats. Maître Aimé Kilolo est l'un de ses avocats. Il est joint au téléphone par Paul Matino.
Deux décisions ont été prises aujourd'hui. La première a effectivement rejeté la demande qui tendait à obtenir la nullité du mandat d'arrêt. Et donc, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de libérer M. Jean-Pierre Bemba purement et simplement sans condition. Nous disposons encore d'un délai de 24 heures pour engager une procédure devant la Cour de cassation. Par contre, il faut dire aujourd'hui qu'une deuxième décision dont on ne parle pas beaucoup a été aussi prise par la même chambre de mise en accusation concernant la mise en liberté provisoire moyennant paiement d'une caution. À cet égard, la chambre de mise en accusation a simplement considéré qu'il était prématuré à ce stade de répondre à cette question tant qu'elle n'avait pas encore vidé la première question qui portait sur la nullité du mandat d'arrêt.
Quelques jours donc de Kinshasa aborde également cette question. On a ici le palmarès de ce vendredi qui titre « La demande de liberté provisoire pour Jean-Pierre Bemba rejetée hier ». Félix Kabuizi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de publication du quotidien La Référence Plus qui paraît à Kinshasa. Finalement, la demande des avocats, la seconde demande des avocats de Jean-Pierre Bemba n'a pas été acceptée et rejetée. Quelle analyse avez-vous ?
Bon, écoutez, je pense que il fallait s'attendre à cette décision, puisque déjà à la cour, plutôt disons au premier niveau, au niveau de la chambre de conseil, comme on a dit, la demande avait déjà été rejetée et il y avait vraiment très peu de chances que M. Bemba puisse obtenir gain de cause au niveau de la chambre de mise en accusation. Bon, c'est vrai que ici au Congo, les gens pensent que c'est une affaire qui peut se régler assez facilement, mais je crois que compte tenu de l'expérience que nous avons à partir des trois anciens seigneurs de guerre de l'Ituri qui sont aujourd'hui détenus à La Haye, les gens devraient être quand même assez réservés quant à espérer à une libération assez facile et rapide de Jean-Pierre Bemba.
Donc, vous voulez dire par là qu'il n'était pas nécessaire que les avocats de Jean-Pierre Bemba puissent initier l'action ? Ils devaient le faire ?
Non, les avocats de Bemba ont juste initié l'action, en fait, pour contester la régularité dans la première audience, puisque M. Jean-Pierre Bemba s'était présenté au niveau du juge, de la chambre du conseil, seul, sans ses avocats, et ils ont pensé pouvoir tabler sur cette petite erreur là, hein, pour espérer contester, si vous voulez, la validité du mandat de la CPI et éventuellement demander également la liberté provisoire. Mais je pense que les juges, à la fois de la Chambre du Conseil, mais également de la Chambre de mise en accusation, ont estimé que c'était peut-être une petite violation de procédure qui ne pouvait pas justifier soit la liberté provisoire ou même la liberté sans condition, comme les avocats voudraient le faire.
Michel Toumba, bonsoir. Michel Toumba, on l'a perdu. Je reviens vers Nicodème Bakoleta. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous avez suivi l'affaire Jean-Pierre Bemba. Les avocats ont pratiquement échoué par rapport à leur seconde demande de la mise en liberté provisoire. Et Félix Kabouzi, par rapport à cette question, lui, il a dit qu'il fallait s'attendre à la décision de la Cour d'appel de Bruxelles de maintenir Jean-Pierre Bemba en détention provisoire.
Oui, en fait, la justice belge a ses réalités, mais je pense que partant du principe de l'arrestation et partant du principe que l'arrestation est une exception et que la liberté est la règle, Jean-Pierre Bemba pourrait bien bénéficier de la mise à liberté provisoire, compte tenu de son rang d'abord. Il a été vice-président de la République et puis sénateur, aujourd'hui sénateur. Jean-Pierre Bemba pouvait bénéficier de bien de cette mise à liberté provisoire et c'est là, au moment opportun, on pouvait bien les récupérer pour les conduire au niveau de la CPI. Bon, cette liberté provisoire, il fallait que ça soit accompagné d'une certaine garantie, de telle manière que quand on aura besoin de lui, on puisse le récupérer et l'amener au niveau de la Cour pénale internationale. Mais lui refuser la liberté provisoire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord.
Merci Nicodème. Albert Omba, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes journaliste de Numérica et Tropicana FM. Vous avez suivi Nicodème qui dit que c'est regrettable, il n'est pas d'accord avec la sentence de la Cour d'appel de Bruxelles qui décide de maintenir en détention préventive Jean-Pierre Bemba. Une réaction?
Bon, pas tellement de réaction, parce que le problème ici, c'est de bien maîtriser la procédure. C'est-à-dire, nous sommes à premier degré, il y a l'arrestation qui a été effectuée par la Belgique. Donc, avant que Jean-Pierre Bemba soit transféré, il y a une procédure que la justice belge doit suivre. Mais avant cette procédure, il y a la deuxième, dont la CPI se réserve le droit d'envoyer un droit de transition vers la haie. Et pendant, parce que la Belgique est l'exécutant du mandat. Et tant que celui qui est arrêté n'est pas acheminé encore au niveau du tribunal qui a émis le mandat, il y a encore toute une longue procédure à laquelle les avocats doivent se préparer pour faire face.
Merci Albert Omba. On me signale du côté de la technique que nous avons pu joindre Michel Toumba. Michel Toumba, bonsoir.
Bonsoir, confrère.
Je rappelle que vous êtes directeur provincial de l'agence congolaise de presse Bandundu. Vous avez suivi le point de vue de l'avocat de Jean-Pierre Bemba qui a évoqué notamment la décision de la Cour d'appel de Bruxelles de maintenir Jean-Pierre Bemba en détention provisoire.
Oui, nous avons placé quelques espoirs dans cet appel-là. Bon, hier jeudi, la Cour d'appel a décidé de conserver Jean-Pierre Bemba en prison. Bon, c'est la liberté de la justice belge, on n'en peut rien. Mais nous avons pensé que cette justice quand même puisse tenir un peu compte des griefs qui avaient été soulevés en son temps par l'un des avocats de Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire l'absence d'un avocat lors du premier interrogatoire par un juge d'instruction. En fait, il avait dit à l'époque qu'on pouvait seulement interroger Jean-Pierre Bemba sans prendre des mesures de privation de liberté. Et en plus, nous connaissons qu'il y a des avocats qui ont fourni des assurances qu'une fois Jean-Pierre Bemba replacé dans la remise en liberté, va rester à la disposition de la justice internationale et ne va pas quitter la Belgique. Et en plus, nous connaissons que Jean-Pierre Bemba a promis de donner au procureur de la Cour pénale internationale des éléments importants qu'il détient seul et qui ne sont pas connus par ce procureur. Je pense que tous ces éléments réunis, on pouvait quand même arriver à obtenir et à accorder la liberté provisoire à Jean-Pierre Bemba.
Félix Tabouzi, l'arrestation de Jean-Pierre Bemba intervient au moment où on devait déjà élire le porte-parole de l'opposition. Il n'y a pas ça, il y a également les relations tendues entre la RDC et la Belgique. Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Non, moi je pense que vraiment il n'y a pas lieu de faire une quelconque relation entre l'arrestation de Jean-Pierre Bemba en Belgique sur mandat de la CPI avec les problèmes internes du Congo. Il faudrait vraiment qu'on précise très clairement que Jean-Pierre Bemba n'est pas arrêté du fait d'une quelconque plainte venue de notre pays. Et on le savait déjà depuis 2006 que le président du MLC était sous le coup, n'est-ce pas, des enquêtes qu'effectuait le procureur de la CPI au sujet du comportement des militaires du MLC à Bangui. Donc moi je pense qu'il n'y a absolument pas de relation à faire entre les deux éléments. De deux, l'arrestation de M. Bemba étant consécutive, n'est-ce pas, à cette situation, il n'y a même pas lieu d'évoquer une quelconque immunité. On a lu les statuts, n'est-ce pas, les dispositions des statuts de Rome.
Qui ne fait pas allusion à aucune...
Absolument pas. La CPI peut même prendre aujourd'hui un chef de l'État en exercice. La CPI peut arrêter même un président de l'Assemblée nationale, du Sénat en exercice. Donc il faudrait que nous comprenions qu'il s'agit d'une justice supranationale qui a ses règles, qui a ses dispositions. Et donc on ferait complètement fausse route de penser que... on a arrêté Jean-Pierre Bemba pour l'empêcher d'être porte-parole de l'opposition. Il aurait même été encore aujourd'hui vice-président ou même premier ministre. Il aurait toujours été arrêté. Donc je crois qu'il faudrait vraiment qu'on le dise assez clairement.
À Albert Omba, d'aucuns estiment que l'arrestation de Jean-Pierre Bemba est un certain complot qui est mené contre la République démocratique du Congo. Vous avez suivi la presse. Il y a déjà des plateformes qui se sont mises en place.
C'est vraiment trop dire. Je ne vois pas la liaison qui est entre cette arrestation et un complot quelconque. Donc, bien sûr qu'il y a des petits problèmes à gauche et à droite, mais il y a, comme Félix vient de le dire, il n'y a vraiment pas une relation, d'autant que tout le monde connaissait quand même l'évolution de ce dossier depuis plus d'une année. Et donc, un dossier qui a évolué, l'arrestation qui a été effectuée en dehors du pays. Si Jean-Pierre même était arrêté ici, là, on pouvait parler de complot parce que le gouvernement congolais allait peut-être se joindre pour cette arrestation, mais une arrestation qui est exécutée dans un pays étranger pour des griefs commis dans un autre pays étranger, il y a de quoi, c'est difficile de faire une relation avec tout ce qui se passe ici. Donc, c'est vraiment difficile de dire qu'il y a un complot.
Michel Toumba, comment vous interprétez un peu cette manière d'agir de la Cour pénale internationale?
Oui, j'insiste de le dire, hein, la Cour pénale internationale a sa méthode de travail, sa liberté. Il peut, s'il le veut, parce qu'il peut commencer par arrêter, et cela à ses dispositions. Mais je pense que la meilleure façon aurait été de commencer par l'arrestation de centrafricains qui ont été, n'est-ce pas, au centre de ce scénario. Parce que Jean-Pierre Bemba n'a fourni que de l'aide qui a été demandée par un régime en place, qui était menacé d'un coup de poing. Alors, Jean-Pierre Bemba, nous nous rappelons bien qu'à l'époque, avait même demandé une enquête quand il avait écrit à l'ONU pour des enquêtes. Je pense qu'il cherchait déjà qu'à ce moment-là que les responsabilités des uns et des autres soient établies. En fait, pour moi, c'est une arrestation tout à fait normale qui ne va pas continuer et qui est le chef de l'état-major général qui a la responsabilité de la responsabilité. Les opérations seront aussi prises un jour. Mais Bemba est arrêté, il est arrêté. Chercher à commencer, pourquoi par Bemba, pourquoi on a commencé par le chef d'état-major général de l'armée, pourquoi on n'a pas commencé par Patassé qui a même fait cette demande express là, officielle. Bon, là, c'est un peu chercher le pouls sur la tête des justiciers, mais je pense que ça ne pose pas de problème, que la chaîne va continuer.
Michel Toumba? Il n'est plus avec nous. Albert Omba, aujourd'hui Bemba condamné. Quel sera l'avenir d'un certain leadership au niveau de l'opposition?
Oui, il incarne parce qu'il est l'opposant principal dans le jeu démocratique. Il est d'abord l'opposant qui a été élu après le chef de l'État. C'est lui, son parti. C'est le parti qui vient en deuxième position après le parti du chef de l'État ou de la majorité présidentielle. Donc c'est dans l'action ou dans les actes qui doivent être opposés et qui doivent être au niveau de l'opposition, Jean-Pierre Bemba joue un rôle important. Donc son arrestation constitue aussi un frein et un handicap sérieux pour la bonne marche de l'opposition, du fait qu'il incarne, bien sûr que les autres membres du MLC peuvent trouver notre leadership, c'est vraiment parmi les opposants, c'est lui qui était le leader le plus connu et le plus grand leader, parce que c'est lui qui a participé au jeu électoral.
Félix Kabouzi, est-ce que le maintien de Jean-Pierre Bemba en détention provisoire prolongée ne conforte pas la majorité?
Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il ne faudrait vraiment pas penser que lorsque Jean-Pierre Bemba est maintenu, que le MLC ne pourrait pas trouver un successeur valable, que l'ensemble des partis de l'opposition ne trouverait pas un successeur valable. Non, moi, je pense que le tout, en 2011, à mon avis, se jouerait par rapport à ce que l'AMP aura fait ou n'aura pas fait. Je pense que effectivement aujourd'hui, on ne peut pas beaucoup parier sur Jean-Pierre Bemba 2011, puisqu'on a vu la procédure de la CPI par rapport au seigneur de Guillaume de Vitouri, qui sont là pratiquement depuis 2 ans, et le jugement n'a même pas commencé. Donc je pense qu'il est fort probable, si Bemba était transféré à la haie, qu'en 2011, il ne soit pas physiquement en mesure de participer aux prochaines élections. Mais je crois que l'issue des prochaines élections dépendra de la réussite ou de l'échec de l'AMP au cours du mandat actuel. Moi, je pense qu'il y a des éléments qu'on peut aligner. Il y en a d'ailleurs eu 33 hein, aux élections de 2006. Peut-être qu'en 2011, nous en aurons une cinquantaine. Donc, probablement, sur les cinquantaines, on trouvera d'autres personnes qui pourraient se mesurer avec Kabila au second tour.
Merci, Félix Kabouzi. Michel Toumba, rapidement, avant que nous ne puissions passer au deuxième thème de notre tribune de la presse, nous étions en train de parler justement de la détention de Jean-Pierre Bemba qui a été décidée par la Cour d'appel de Bruxelles. Est-ce que ça n'a pas un impact dans le parti de Jean-Pierre Bemba et également dans la démocratie en République démocratique du Congo? Votre réaction?
Oui, ce qu'on fait, ça a un impact terrible sur la démocratie, parce que on doit dire que sans démocratie véritable, le développement ne saurait s'affirmer, c'est-à-dire un développement qui vient par le bénéfice de la participation citoyenne de tous les Congolais. Ça ne sera pas possible. Je pense que Jean-Pierre Bemba a obtenu des suffrages importants exprimés par la population congolaise pendant la présidentielle. Il est venu juste après Joseph Kabila, président de la République. À ce titre, c'est lui qui est d'office le porte-parole de l'opposition. Mais si dans le cas à venir, il est condamné, alors là, ça sera regrettable parce que le leadership qu'il devait incarner, on devra chercher soit dans le MLC, soit dans les autres partis qui suivaient, quelqu'un d'autre pour assumer cette fonction-là. Parce que notre démocratie ne peut pas tomber en panne parce qu'un individu n'est pas là. Nous aurions bien souhaité que ce soit lui, Jean-Pierre Bemba, parce qu'il a mérité. Le scrutin de 2006 lui a donné cette opportunité-là, ce leadership-là, d'assumer l'opposition en tant que porte-parole, mais il a été rattrapé par la justice internationale en pleurant. Mais s'il est condamné, on est bien obligé de continuer. Là, le pays ne va pas s'arrêter là-bas. On devra chercher notre porte-parole et arriver à mettre dans notre pays une opposition républicaine pour faire avancer le développement du pays.
Merci Michel Toumba, vous êtes directeur provincial de l'agence congolaise de presse Bandundu. C'est avec votre intervention que nous passons au deuxième thème. 12 000 tonnes de matériel, tout engin confondu, sont arrivées à Kinshasa. Le cortège a traversé toute la ville de Kinshasa pour rassurer la population du démarrage effectif des travaux des 5 chantiers du gouvernement. Selon un expert du ministère de Travaux publics, ce matériel constitue les premiers lots des engins commandés dans le cadre de la coopération sino-congolaise. d'autres engins sont attendus dans les jours qui viennent, Paul Maténo.
Des conteneurs, de camions bennes et autres engins, voilà ce qui constitue l'essentiel du matériel qui est arrivé hier soir à Kinshasa. Mais ce n'est pas fini, a indiqué M. Toumba, expert au ministère de Travaux Publics.
C'est le premier bateau qui est arrivé, 12 000 hommes. Il y a encore un bateau qui a accosté à Pointe-Noire. Dans 5-6 jours, ça va être ramené à Matadi pour que ça fait 4 500 tonnes. Et à Lubumbashi, d'ici une semaine, il y aura 14 000 tonnes qui vont arriver.
Au passage du cortège, la population n'a pas manqué de manifester sa satisfaction de voir des engins qui, selon elle, viennent non seulement effectuer les travaux du gouvernement, mais aussi donner du travail au peuple congolais.
Nous sommes très contents. Il faut que l'État pose des actions pareilles. Nous sommes longtemps restés au chômage. Maintenant, on peut avoir du travail. Nous accueillons avec joie ces matériels.
Avec cette première débarcation, les Congolais pourront peut-être s'attendre à l'effectivité des travaux de 5 chantiers du gouvernement.
Félix Kabouzi, on a le journal L'Avenir de ce vendredi ici, en titre, nous voyons, c'est sérieux, 140 tonnes de matériel et 125 ingénieurs chinois à Kinshasa. Est-ce qu'on peut parler de la concrétisation des promesses?
C'est la concrétisation des promesses, mais il ne faudrait vraiment pas que on se lance vraiment dans des espoirs, comment dirais-je, peut-être trop démesurés. C'est vrai que lorsque, pendant plusieurs années, on est resté dans un pays sans voir autant d'engins débarquer dans la ville, on peut effectivement penser que c'est le début de, si vous voulez, ou bien le bout, qu'on a déjà vu le bout du tunnel. Non, je pense que ce serait aller très vite en besogne. D'abord, il faut noter que il ne s'agit que d'un prêt qui nous est accordé. Il s'agit d'un prêt qui nous est accordé, comme nous en avons eu aussi par le passé. De deux, ces engins viennent pour lancer des travaux dans un certain nombre de chantiers qui sont essentiellement au nombre de 5, c'est-à-dire les routes, la santé, l'éducation, et ainsi de suite. Mais le développement du pays ne dépend pas uniquement de ces chantiers-là.
Comment cela? Et ce sont les priorités du gouvernement.
Oui, j'en conviens, ce sont des priorités, mais au-delà de ces priorités, le pays va tourner avec autre chose. Je pense que les 5 ou 6 ou 10 milliards de Chinois ne suffiront pas du tout pour donner le plein bonheur au peuple congolais. Le plein bonheur au peuple congolais, le développement du peuple congolais doit se construire par notre propre travail, par notre propre effort. Je ne pense vraiment pas que quelqu'un qui prend un crédit peut se réjouir parce qu'il a reçu un crédit. Il faut peut-être se réjouir lorsqu'on a fini par rembourser ce crédit. À ce moment-là, vous pouvez dire qu'effectivement, ce crédit-là m'a servi à telle ou telle chose. Donc moi, je voudrais dire que c'est bien qu'on ait réceptionné ces quelques tonnes de matériel, mais le plus important, c'est que le gouvernement puisse engager ses propres efforts pour générer des moyens localement, pour générer les moyens à partir de notre propre budget, engager la bonne gouvernance pour que demain, le peuple congolais puisse réellement tirer profit de ce qui a été fait.
Nicodème Bakoleta, rédacteur en chef de la radio-télévision Graben de Beni dans le Nord Kivu. Vous avez suivi Félix Kabouzi qui dit que, bon, pas d'espoir démesuré malgré l'arrivée des tonnes d'engins pour les 5 chantiers.
Oui, pas d'espoir démesuré, mais le pays était dans un état où ça valait la peine qu'on puisse avoir une thérapie de choc. Vous savez, la situation que nous traversons à l'intérieur ici, on voit des enfants qui atteignent l'âge de 6 ans, ils n'ont jamais vu un véhicule parce qu'il n'y a pas de route. Donc il fallait une mesure qui pourrait amener à ce qu'on puisse avoir la route, parce que moi je considère la route comme un facteur important pour le développement. Donc la population à l'intérieur salue cette arrivée de tonnes de matériel qui vont à coup sûr permettre à ce que nous puissions avoir des routes et puis s'échanger, communiquer, etc. Mais aussi notre préoccupation est que les routes qu'on va bien nous donner, nous sommes dans une région équatoriale où il pleut presque toute l'année. On voudrait bien avoir une route qui pourrait bien résister aux intempéries. Parce que nous avons l'expérience, et ici les Chinois, à partir de Beni, ont commencé la réfection de la route qui va jusqu'à Kisangani. Mais à peine arrivé à quelques kilomètres, bon, derrière la route se dégrade déjà à cause de la pluie, etc.
Donc la qualité, vous insistez plus sur la qualité.
Pardon, oui, la qualité, il faudrait qu'on ait des routes de qualité, ça c'est important. Mais aussi, un autre aspect très important, il faut bien répartir, on parle des 5 châtiers de l'État, il faut tenir compte de chaque province, de telle sorte qu'il n'y ait pas de provinces qui vont se sentir à marge, oubliées. Donc il fallait qu'il y ait un équilibre entre les provinces.
Merci Nicodème. Michel Toumba, récemment le conseil de ministres s'est tenu dans le Bandundu. On a également parlé 5 chantiers, différents travaux de réhabilitation et de construction des écoles. Il y a des engins qui arrivent pour les 5 chantiers. Quel commentaire faites-vous de Michel Toumba? Il est parti. Albert Omba, votre réaction, vous avez suivi Félix Kabouzi qui a émis des réserves, pas d'espoir démesuré. Il a également insisté sur le fait du remboursement parce que c'est une dette, en fait, il faudrait tenir compte de cela. Il y a Nicodème de Béni, notre confrère, qui dit que la population de Béni, par exemple, salue l'arrivée de ces engins et véhicules, mais il faudrait quand même tenir compte de la qualité des travaux qui seront réalisés et puis tenir compte de l'équilibre des provinces. Quelle lecture faites-vous?
Oui, Nicodème a pleinement raison, parce que d'abord c'est bien de commencer les travaux, tout le monde est content, c'est bien de démarrer avec les grands travaux, c'est quand même pour le développement du pays. Mais il y a des petites remarques qu'on doit voir à gauche et à droite, c'est d'abord pour ce qui est de l'équilibre, parce qu'il y a des provinces, comme la province du Kassai oriental par exemple, et il y a des députés qui ont réclamé la liaison entre Bujima et Kanang, c'est une route qui a vraiment une importance capitale, mais qui sera faite de terre. Donc, c'est une route qu'on devait prévoir dans le programme d'asphaltage. Donc, ici, l'équilibre, vous allez dans le Maniema, c'est la même chose. Or, le Maniema, c'est une province enclavée totalement. Le Kassai oriental, la même chose. Donc, ce sont des provinces qui devaient avoir jonction, soit avec Bandundu, Kinshasa et Consort, l'autre à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Mais s'il n'y a pas de route qui peuvent permettre au Maniema ou au Kassai oriental d'avoir des jonctions, parce qu'ils ne dépendent que leur sortie, c'est vers l'est ou l'ouest, c'est vraiment un travail presque inutile. Alors, les 5 chantiers, on se concentre pour les grands travaux, c'est bien pour le développement, mais le premier chantier, c'est le ventre. Donc, il ne faut pas que le gouvernement néglige l'aspect social, et l'aspect social qui est extrêmement important. C'est l'un des premiers chantiers auxquels on devait songer. Pendant qu'on construit, qu'on fait des grands travaux, des routes, des grandes infrastructures, il faut aussi que le Congolais retrouve le moyen de vivre. On a vu le SMIC qui a été relevé à $3, mais il faut qu'on aille au-delà parce que d'autres pays sont dans les 19 dollars.
Albert, sans vous interrompre, les routes permettront d'évacuer, qu'il y ait une évacuation des produits qui pourrissent dans les provinces, à l'intérieur du pays?
Oui, les routes, les grandes routes, mais il y a des routes secondaires. Je prends le cas de Butembo par exemple.
Exact.
On peut prendre la route qui vient de Goma, Kaina, Butembo, Beni. Bon. Mais si on n'a pas arrangé la route de Mangourujipa, Mangourujipa de Yapande jusqu'à Butembo, c'est rien. Si par exemple à Beni, la route de Kassindi n'est pas arrangée, la route de Mutuanga n'est pas arrangée, donc vous voyez que c'est pratiquement inutile. Je prends le cas de Kindu. Si la route qui va vers Lokando ou Kibombo n'est pas arrangée, c'est pratiquement impossible. Mais si on fait la jonction entre Kindu et par exemple Lodja, ça pourrait faire mieux parce que tout le monde de Lodja peut se ravitailler facilement à Kindu au lieu d'aller en Bujimai.
Donc, oui, continuez votre bien.
Au lieu d'aller en Bujimai. Donc, c'est ce que nous disons, ces routes, les grandes routes, oui, les grands travaux, mais aussi les routes des dessertes agricoles sont extrêmement importantes, il ne faut pas qu'on néglige ces routes-là. Et là, c'est les gouvernements provinciaux et le gouvernement central qui doivent s'atteler pour accélérer ces routes. Il ne faut pas qu'on oublie les routes des dessertes agricoles pour seulement se cantonner sur les grandes routes.
Michel Touba, on dit que vous êtes en ligne?
Oui, je suis allé.
Bon, en fait, nous parlons de l'arrivée des engins, et matériel pour les 5 chantiers. Vous, dans le Bandundu, comment est-ce que vous avez accueilli l'arrivée de ces différents matériels et engins pour la réalisation, finalement, des 5 chantiers de la République?
Je suis prêt à vous dire, à déclarer que la population de Bandundu est la plus heureuse de l'arrivée de ce premier lot de matériel dans le cadre de 5 chantiers. La dernière réunion du Conseil des ministres a eu lieu ici vendredi dernier.
Exact.
Et il y a 13 mesures que nous appelons ici des mesures salutaires qui ont été prises et qui ont créé la joie dans le cœur de tous les enfants de Bandundu. Il y a eu la mécanisation de l'agriculture, le financement des centres de reproduction de semences agricoles, le financement des travaux de réhabilitation des routes de dessert agricoles, l'appui financier du gouvernement à la relance de la production ouvrière. La production ouvrière, c'est notre diamant dans le Bandundu. L'amélioration de la desserte en électricité à Inongo, à Bandunduville, à Kisit et dans les localités environnantes. L'amélioration de la desserte en eau dans la ville de Kisit et dans les territoires de Boulungu, Kenge, Idiopé et Massimanimba.
Donc vous pensez-vous que l'équilibre par rapport aux zones ou aux coins de Bandundu a été respecté en ce qui concerne la réalisation de ces chantiers-là dans cette province?
Oui, tous les districts ont été pris en compte. Je vous parlais là tout à l'heure du Nongo, qui est le chef-lieu du district de Maïndombe. Mm-hmm. Je vous parlais là de Bandundu, qui est l'actuel chef-lieu de province, et à côté du district du Plateau, et le Kwilu et le Congo. Tous les quatre districts ont été pris en compte. Et nous pensons que avec l'arrivée de ce matériel-là, Bandundu va voir pour la première fois, et de ce qu'on appelle voir avec ses yeux, les 5 chantiers de la République.
Merci,
très content.
Merci, Michel Toumba, Félix Kabouzi, à moins que vous ayez un mot à placer par rapport à ces 5 chantiers pour boucler ce thème.
Oui, je voulais vraiment dire que il ne faut vraiment pas que nous perdions de vue que le développement du pays doit reposer d'abord sur l'effort du pays, des Congolais, du gouvernement congolais. On a longtemps compté à un moment donné sur la Banque mondiale, sur le Fonds monétaire international, sur la coopération internationale, et tout ce qu'on a gagné de l'ensemble de toute cette coopération, c'est 14 milliards de dettes. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est avec le matériel des Chinois qu'on va encore développer le pays. Moi, je dis qu'on peut avoir du matériel des Chinois, mais si au niveau du gouvernement, les méthodes de travail ne changent pas, les méthodes de gestion ne changent pas, si tout ce qui peut même être généré avec ce crédit-là est mal géré et détourné, on ne verra encore qu'une dette sur le Congo. Donc moi, je voudrais qu'on inverse, n'est-ce pas, l'approche du problème, qu'on considère que ce que les Chinois nous donnent peut nous aider à réhabiliter quelques routes, mais que le plus grand effort, c'est l'effort que le gouvernement doit faire afin de mieux gérer les ressources nationales.
Merci Félix Kabouzi. Des affrontements ont opposé mercredi dernier des éléments par décès de la 6e brigade intégrée aux combattants FDLR à Mugongo, Rugarama et Kinyodoni dans les localités situées au nord-est du chef-lieu de Rutshuru. Bilan de ces affrontements, 6 morts et 14 blessés parmi les déplacés du camp de Kinyodoni selon des sources militaires sur place. Gisèle Cage.
D'après les responsables militaires de la 6e brigade intégrée. Les combats ont commencé alors qu'ils progressaient pour reprendre les contrôles des localités de Mugogo et Rugarama à plus de 30 km au nord-est du chef-lieu du territoire de Rutshuru. Selon la même source, les FRDC avaient réussi à déloger des FDLR dans les positions qu'ils occupaient auparavant et où ils commettaient plusieurs exactions à l'endroit des populations civiles. C'est à la suite de cette intervention, en représailles, les FDLR qui étaient en débandade sont allés s'attaquer aux milliers de déplacés de deux camps de Kinyandoni à 9 km de la cité de Kiwanja, tuant au passage 6 personnes et blessant 14 autres. Selon les témoignages d'une rescapée, ils ont été surpris au moment où ils organisaient des opérations de vote pour élire un nouveau président du camp de Kinyandoni en Guikan.
Ils sont arrivés juste dans la salle de vote. Ils ont commencé à tirer sans nous aviser même. Pour déplacer même des témoins, ce sont ceux qui étaient des victimes. Ceux qui étaient des votants qui sortaient de la salle et des uns qui avaient eu des coups de balles en cours de route et des morts.
Face à cette attaque, la porte-parole de la MONUC à Goma condamne fermement cet acte qu'elle qualifie de crime de guerre alors qu'il est le calme revenu dans la zone où se sont déroulés les combats. Les éléments de la 6e brigade intégrée, les casques bleus de la MONUC se sont déployés à Kinyandoni selon des sur place. Les déplacés qui ont fui les camps ont commencé à regagner leur site. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
De son côté, Charles Kasereka, ministre de l'administration du territoire du gouvernement provincial du Nord Kivu, qui était l'invité du dialogue entre Congolais hier jeudi, a fait état de 4 morts. Au moment où cette attaque se faisait, la 4e réunion du groupe conjoint de suivi du communiqué de Nairobi s'est clôturée le mercredi dernier dans la soirée à Gisenyi, au Rwanda. Les résolutions de cette réunion avec notre confrère Jungala.
Tout en maintenant la sensibilisation et la pression militaire, les participants à la réunion de Gisenyi sont persuadés que beaucoup de combattants FLR sont prêts à rentrer dans leur pays, mais ils sont pris en otage par leurs leaders. C'est pourquoi ils ont lancé un appel en direction de certains pays occidentaux comme le Canada, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et même l'Allemagne, qui hébergent encore des leaders FLR sur leur territoire, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que ces leaders ne continuent pas à prendre les combattants en otage. D'autre part, tout en se disant satisfait du travail abattu jusque-là, dans la sensibilisation des combattants FDLR par des médias nationaux comme Radio Capi et par les petits émetteurs radio de la section DDRR de la MONUC, ils ont également convenu d'augmenter cette sensibilisation par des médias en sollicitant notamment d'autres radios transfrontières comme la BBC ou la Voix de l'Amérique qui, elles, ont des programmes en Kinyarwanda et cela ne devra plus tarder, ont-ils promis.
Nicodème Bakoleta, rédacteur en chef de la radio-télévision Graben de Beni dans le Nord Kivu, la question des FDLR est toujours au rendez-vous. Des civils ont été attaqués dans un camp des déplacés. Il y a eu mort d'homme. Quelle analyse avez-vous par rapport à cette question?
Oui, c'est bien triste, hein. Les déplacés sont des personnes qui ont fui la guerre, ils ont fui la mort pour se retrouver contre leur volonté dans des camps. Et c'est là qu'ils seront gratuitement tués. Là, c'est vraiment triste, là on peut que déplorer. Mais cette affaire soulève la question de protection des personnes et de leurs biens. Moi, je comprends mal que le camp de déplacés ne soit pas sécurisé pour qu'un groupe armé vienne distribuer comme ça la mort aux occupants. Donc, alors que nous savons très bien, les territoires de Rutshuru, comme de Masisi, sont des zones opérationnelles. L'État devrait prendre des dispositions pour sécuriser les déplacés. Donc, s'attaquer aux déplacés, pour moi, je trouve que là, je suis dans un autre contexte. S'attaquer aux déplacés, donc, constitue, à mon sens, un crime contre l'humanité. Et c'est là, il faut bien souligner que, un jour, les responsables de ces groupes armés, il faut qu'ils soient traduits devant la Cour pénale internationale pour répondre de leurs actes. Donc, c'est triste. On connaît ces cas ici, dans la province du Nord Kivu, où le plus souvent, bon, on a des déplacés qui fouillent, etc. Mais la réunion, on parle de réunion de Gisenyi, nous, on comprend mal pourquoi, chaque fois qu'on doit parler des questions de FDLR, ces mêmes FDLR ne sont pas associés dans les discussions. Pourquoi ne pas les associer pour qu'on trouve une solution définitive à la question? Et aussi, il y a le Rwanda qui complique l'équation, parce qu'à mon sens, le Rwanda ne veut pas que ces FDLR puissent retourner au pays, à trouver que les FDLR deviennent un fonds de commerce, et que ça devient une excuse pour tout. Mais tiens, hein, d'une certaine manière, avec de malignité, ces FDLR dans la partie congolaise, c'est ce que nous déplorons tous. Donc, tuer les déplacés constitue, à mon sens, un crime contre l'humanité. Il faudrait que les auteurs puissent répondre de ces actes-là.
Merci.
Mais la réunion de Gisenyi, La réunion de Gisenyi, vous en avez parlé, mais ce n'est pas la première réunion. On a connu plusieurs réunions, et c'est bien de connaître des réunions pour résoudre la question. Mais à mon sens, ces réunions ne vont pas apporter grand-chose à la question.
On vous accorde.
Parce qu'il faudra...
Oui, allez-y, terminez, mettez le dernier.
Oui, je disais que les FDLR sont dans la brousse. Comment ces FDLR sont-elles alimentées en armes et munitions? Parce que vous n'allez pas me dire que ce sont les munitions apportées en 1994 et qui continuent à faire la guerre aujourd'hui. Donc, il y a de voies par lesquelles ces munitions passent et il faudrait d'abord commencer par bloquer ce passage d'armes.
Félix Kabouzi, réaction, vous avez suivi Nicodème qui a évoqué le fait que le Rwanda fait de la question FDLR un fonds de commerce. D'où viennent les armes que détiennent les FDLR? Ce ne sont pas quand même des armes qui datent de 1994. Il a également déploré le fait que les camps des déplacés n'est pas sécurisé. Comment? En plus, il a parlé également de la multitude des réunions qui finalement ne résout rien.
Oui, je crois qu'au-delà même des FDLR, il faut parler finalement d'autres groupes armés étrangers qui sont chez nous, notamment la LRA et les Mbororo. Donc nous nous retrouvons comme ça à RDC avec 3 groupes armés étrangers qui tous finalement violent dans notre pays, commettent des exactions dans notre pays. Et le plus grave, c'est qu'on n'arrive toujours pas à voir le bout du tunnel. On n'arrive pas à voir quelle solution on pourrait appliquer à ces différents groupes armés. Je crois que fondamentalement, il y a trois approches. Soit on leur demande de rentrer volontairement au Rwanda, soit on leur demande d'être relocalisés chez nous, au-delà de 150 km de la frontière.
Ça a été décidé lors de la réunion de Kisangani, une relocalisation, mais ce ne sont pas tous les FDLR qui ont participé à cette rencontre.
Exactement. Soit, et ça c'est la troisième solution, et c'est la solution que moi, personnellement, j'ai toujours attendu de notre gouvernement, c'est les obliger militairement à rentrer chez eux. Comment voulez-vous qu'on soit...
Nous en avons les moyens, selon vous?
Mais mon cher ami, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Est-ce que faut-il laisser les Congolais à la merci de ces gens pendant 14 ans sans que notre gouvernement ne se décide quand même à régler le problème? Je crois que c'est ça le vrai problème.
Albert Romba.
Oui, pour moi, c'est vraiment triste. Donc, il faut qu'on tue combien de Congolais pour que le gouvernement puisse comprendre les niveaux qu'ont atteint les atrocités dans cette partie de la République. Les FDLR. Il n'y a aucun pays au monde qui pouvait, à l'époque, quand ils sont venus, accueillir au moins près de 3 millions de réfugiés. Le Congo l'a accepté. Ils ont évolué ici. Et hier, j'ai été surpris quand on posait la question au représentant des FDLR qui disait qu'ils ne commettent pas des exactions. Mais la liste est très, très longue. Si vous descendez dans les Rutshuru, vous allez à Masisi. Vous allez plus loin, un peu plus bas, à Walungu. Mais c'est atroce.
À l'heure actuelle, nous tendons vers la fin de l'émission. Selon vous, que doivent faire les autorités congolaises et peut-être la communauté internationale?
Les autorités congolaises doivent utiliser le moyen le plus efficace, le plus féroce, parce qu'on a donné autant de délais au FDLR. Ça fait plus de 5 ou 6 fois qu'on a donné des délais, on revient sur les délais, mais il faut passer à l'action pour neutraliser tous ces groupes armés. C'est ce qui est important. La communauté internationale doit aider aussi le gouvernement qui ne dispose peut-être pas de moyens. Vous direz non, il n'y a pas de moyens, parce que quand on envoie nos forces armées déloger les FDLR, ils vont commettre aussi des exactions, ce qui n'est pas normal. Alors, il faut que la communauté internationale fasse pression sur les responsables des FDLR et qu'ils trouvent une solution pour les déplacer du Congo et les amener quelque part. Parce qu'il ne faut pas qu'on donne toujours raison et demander au Rwanda aussi d'accepter certaines, d'être un peu plus élastique dans leurs décisions, parce que tout le monde qui est FDLR n'est pas génocidaire.
Merci. Michel Toumba, directeur provincial de l'Agence congolaise de presse, une réaction par rapport à ce que venaient de dire les différents confrères?
Oui, une réaction. Je pense qu'il y a une relation qui est établie depuis un certain temps. Quand nos forces armées frappent sur les FDLR en fuyant, frappent sur la population congolaise. Et que c'est depuis longtemps comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à vos yeux, selon vous?
Oui, mais il est temps de continuer avec la pression militaire et de mettre fin à cette histoire. Ça fait 14 ans que le sang congolais est en train de couler comme ça. Et le gouvernement ne doit pas nous dire qu'il faudra que nous continuions encore à supporter ces atrocités pendant 4-5 ans encore, non. Et je pense que pour mieux faire, les pays signataires, c'est-à-dire le Rwanda et la RDC, doivent procéder à la relecture de leurs engagements qui se trouvent dans les accords de Nairobi.
Merci.
Que chacun puisse s'engage à mettre résolument ça en pratique.
Merci Michel Toumba. Un dernier mot, vous voulez placer un dernier mot, Félix Kabouzi, par rapport à cette question?
Non, le dernier mot, c'est vraiment pour encourager le gouvernement à aller très vite dans la formation de l'armée, puisque, comme on dit, lorsqu'on veut manger des omelettes, il faut casser l'œuf. Si nous voulons résoudre vraiment le problème des FDLR, il faut chercher, comme l'autre a dit, la solution la plus efficace. Et la plus efficace au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de les obliger militairement à rentrer chez eux.
Merci Félix Kabouzi. Nous sommes à la fin de cette tribune de la presse. Merci à Michel Toumba, directeur provincial de l'Agence congolaise de presse Bandundu. Merci également à Nicodem Bakoleta, rédacteur en chef de la radio-télévision Graben de Béni dans le Nord Kivu. Également à Albert Omba, journaliste de Numérica et Tropicana FM. Et à vous, Félix Kabouidi, directeur de publication du quotidien La Référence Plus, qui paraît à Kinshasa. Guy Maté était à la réalisation. Merci une fois de plus à Paulin Munkeu, qui tenait la technique. Bonne suite des programmes sur la radio Okapi.